Alors, nous allons commencer une série qui nous mènera probablement jusqu'à Noël, ça va loin, et on va survoler le livre des Actes des Apôtres. Livre des Actes des Apôtres, donc c'est ce qui va nous accompagner dans les prochains dimanches, pas tous les dimanches, rassurez-vous, mais on va faire un bon parcours avec ce livre des Actes qui est placé en numéro 5 dans le Nouveau Testament. C'est bon de se le rappeler peut-être. Après les évangiles, on trouve donc ce livre qui est appelé les Actes des Apôtres. Alors, quelques petites questions sur les Actes des Apôtres, si vous en savez la réponse. Combien y a-t-il de chapitres? Oui? Non, pas 5. Hein? Non, plus. 28 chapitres, exactement. Oui, et quand vous arriverez au dernier verset, vous allez dire, mais elle est où la suite? Voilà, c'est voulu du Seigneur, je crois, parce qu'il y a comme un arrêt comme ça, on se dit, mais la suite est où? Elle est ici en 2021. Bien, qui est l'auteur de ce livre? Oui, l'auteur, donc celui qui a écrit, hein. C'est pas Paul, parce que... Ouais. Non plus, non? Autre réponse possible? C'est Luc, voilà, c'est pas Jude, donc c'est Luc. Luc, et pourquoi on sait que c'est Luc? Alors, pour deux raisons principales. Parce que la première, il dit au premier verset, si vous l'avez lu, « Cher Théophile, dans mon premier livre », donc c'est quelqu'un qui a déjà écrit un livre, et ça fait référence là, il y a plusieurs raisons, mais ça fait référence là à l'évangile de Luc. Et puis, à partir d'un chapitre, peut-être c'est le chapitre 14, le ton change un petit peu, et puis au lieu de dire « Paul fait ceci, fait cela, Pierre a fait ça, etc. », c'est marqué « nous ». Nous, donc l'auteur est inclus dans l'histoire, il se joint à l'histoire du livre des Actes, et puis le style est surtout le même de l'évangile de Luc. Voilà, donc l'auteur est Luc. Si vous avez lu Actes 1 et 2, comment s'appelle le successeur de Judas le traître? Alors, qui n'a pas répondu encore? Oui, qui est... Louise, tu sais, le successeur de Judas, parce que Judas, il est mort, et il faut le remplacer. Tu sais son nom? Non? D'accord. Alors, on va aider Louise. Oui? Mathias, exactement. Mathias, le remplaçant de Judas, qui remplit les critères. Voilà, Judas qui a fait un bout de route avec Jésus, et Matthias le remplace. On ne sait pas grand-chose sur ce Matthias, on sait juste qu'il était là au bon moment et qu'il a suivi Jésus depuis le début et dans la suite certainement. Donc il a fait partie de l'équipe des 12. Est-ce que quelqu'un va réussir à compléter ce verset? Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de... faire, exactement. Et vous pouvez regarder dans la Bible. Hein? Exactement. Et d'enseigner. Vous avez remarqué, il y a d'abord faire. Oui, parce qu'au début, Jésus, il n'avait pas ses disciples. Il était tout seul, au début de son ministère. Il a fait des choses et enseigné. Voilà, donc c'est intéressant. Nous, on dirait le contraire. Ici, dans nos pays occidentaux, on va d'abord faire la théorie et après la pratique, mais non, Jésus, allez, on va à la pratique. Finalement, ça va susciter l'envie d'être enseigné sur le royaume de Dieu. Dans Actes 2, il y a l'épisode de la Pentecôte. Donc, c'est la fête de la Pentecôte. Il y a ce phénomène extraordinaire du Saint-Esprit qui descend sur les croyants qui sont là. On en reparlera tout à l'heure. À votre avis, levez la main si vous avez la réponse. Où se trouvent, à quel endroit se trouvent les disciples? Est-ce que c'est sur le parvis? Est-ce que c'est dans la chambre haute? Dans une maison inconnue tous ensemble? Est-ce que c'est éparpillé dans la ville de Jérusalem? Etc. Où ça? Quand? Pépita? Dans une maison? Dans la chambre haute? Oui, Christian? Chambre haute, voilà. Alors pendant des années, on a pensé que c'était la chambre haute, mais le texte ne le dit pas. Voilà, on suppose, peut-être, mais aujourd'hui, il y a plusieurs théologiens que j'ai lus qui pensent que ce n'était pas dans la chambre haute, donc cette théorie, elle disparaît un peu, au profit de la suivante, où ils pensent qu'ils étaient dans ce qu'on appelle le parvis des femmes, c'est une partie du temple, où c'était libre de se réunir et c'était plus facile de prendre des temps de prière spontanée et de louange. Donc on pense que les disciples étaient en extérieur et il y a un verset qui le prouverait assez bien, c'est quand il y a le Saint-Esprit qui descend, les pèlerins qui sont à Jérusalem, qui sont nombreux, il est dit au bruit qu'ils ont entendu, la multitude a couru. Alors voilà, est-ce qu'ici c'était dans la chambre haute, dans une maison à l'opposé du temple à Jérusalem, c'était plus compliqué. Alors voilà, donc on pense qu'ils étaient plutôt en train de prier. Et puis deuxième argument, c'est que c'est 9h du matin. Et puis à 9h du matin, c'était l'heure de la prière. Donc voilà, au temple. Hein. Donc voilà, c'était probablement... En tout cas, c'est un endroit public. Et ce n'est pas un endroit fermé, parce qu'il y a les 3000 personnes, en tout cas 3000, qui accourent, une foule qui accourt au bruit de la descente du Saint-Esprit. Donc bien, voilà, je vous ai semé le trouble, peut-être, je suis certain. Dans question numéro 4, j'en ai que 5. Est-ce que quelqu'un peut lire Acte 2, verset 33 ? Acte 2, 33. C'est dans la prédication de Pierre. Allez, une belle voix qui va lire Acte 2, 33. Oui. Voilà, merci. Exactement. Donc, pour l'enregistrement, élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Il l'a déversé, comme vous le voyez et l'entendez. Voilà, donc ce verset, et c'est un peu le verset clé du message de l'apôtre Pierre ici, mais il commence par élevé à la droite de Dieu. Élevé à la droite de Dieu. Donc, c'est parler de Jésus qui n'est plus sur cette terre, là, au temps des apôtres, mais il a été élevé à la droite de Dieu. Alors là, on a une doctrine fondamentale pour la foi chrétienne. Comment s'appelle cette doctrine ? On fait de la théologie, histoire. Hein ? Est-ce que c'est l'assomption du Christ, de Christ ? Est-ce que c'est l'ascension de Christ ? Ou est-ce que c'est l'exaltation de Christ ? C'est dur, hein ? Assomption ou ascension ? Ou exaltation de Christ ? Plutôt le troisième. Autre réponse possible ? L'ascension ? D'accord, c'est dur hein, en fait. Je me rends compte cette question, je suis un peu vache quoi. Je suis le prof vache qui envoie des questions difficiles. En fait, on va pas procéder par élimination. C'est pas l'Assomption, parce que l'Assomption, c'est la fête de la Vierge Marie le 15 août. Donc ça, il y a pas, c'est non biblique. C'est le point 2, j'ai mis l'ascension de Christ. En fait, c'est pas l'ascension parce que l'ascension, c'est quand il a été élevé. Donc c'est l'acte historique lui-même où Jésus a été élevé. Il prend l'ascenseur. Hein. C'est le même mot, ascension, ascenseur. Mais dans ce verset, c'est le point 3, c'est l'exaltation. C'est le fait que Christ, il est, entre guillemets, assis à la droite de Dieu. Et c'est la position la plus haute, mis à part l'autorité du Père, de Dieu le Père. Donc Christ, en théologie, c'est l'exaltation. Et cette doctrine, on va voir qu'elle est très importante tout à l'heure. Je vais en parler un petit peu plus à fond. Et puis, dernière question. Qu'ont fait les apôtres une fois qu'ils ont prié ? Ils ont prié, « Seigneur, toi qui connais les cœurs ». Donc, pour remplacer Judas, il y avait deux candidats. Hein, si vous avez lu le texte, il y avait deux candidats et c'est Matthias qui a été choisi. Mais qu'ont fait les apôtres pour choisir Matthias après avoir prié ? Oui, Chantal ? Oui, c'est ça. Ils ont tiré à la courte paille. Ouais, ils ont tiré au sort dans les Bibles en français et c'est les mêmes mots que « jeter les dés ». Seigneur, si c'est un 6, c'est Matthias. Non, si c'est père, c'est Matthias. Si c'est un père, c'est l'autre. Donc voilà, ils ont tiré les dés. Voilà, ils ont prié avant quand même, et il y a une super prière, « Seigneur, toi qui connais les cœurs ». Donc voilà, et ils ont lié au tirage au sort le choix de la volonté de Dieu. Alors, je ne sais pas si vous faites ça, mais il y a une donnée entre deux qui change, c'est que le Saint-Esprit est là, et probablement que ça avait été après la Pentecôte qu'il fallait remplacer Judas. Eh bien, ils auraient peut-être écouté l'Esprit, l'Esprit aurait parlé clairement plutôt que de tirer les dés. Voilà, ça c'est mon interprétation personnelle. On ne voit plus dans le Nouveau Testament, on ne voit pas de tirage au sort comme procédé. On l'en voit dans l'Ancien Testament, alors que l'Esprit qui guide dans la vérité n'était pas encore répandu. Voilà, ils ont tiré au sort, donc assez étrange comme expression, mais ils l'ont fait, ils ont jeté les dés. Voilà pour quelques questions. La suite des actes, ça sera dans 15 jours, et peut-être qu'on reprendra quelques questions pour voir. Alors, je vais rentrer plus dans le message maintenant cette fois. Donc, si vous n'avez pas encore lu Actes 1 et 2, faites-le, comme ça vous allez prendre le train en route, mais là, je suis obligé d'aller de l'avant par rapport à ces deux chapitres. On ne va pas les lire en entier, comme je vous avais dit la dernière fois. Dans ces deux chapitres, il y a des événements clés qui se déroulent comme ça, qui sont assez extraordinaires. Tout d'abord, dans le premier chapitre, versets 1 à 9, il y a les réunions ou la réunion ultime que Jésus a avec ses disciples. Dernière réunion avant l'ascension. Maintenant, vous savez exactement. Que dit-il ? Il leur donne une promesse, ou il leur rappelle plutôt la promesse du Saint-Esprit. Il répond à une question sur la fin des temps et l'établissement du royaume de Dieu. Et puis, il y a l'ascension. Il monte au ciel. Voilà, ça c'est les versets 1 à 9. Versets 10 à 11, il y a un petit dialogue avec deux personnages en blanc. Les disciples sont scotchés à regarder le ciel. Ils voient Jésus qui monte, qui est caché par un nuage et qui va monter au ciel. C'est quand même assez fou, cette histoire. Voilà, tac. Et puis, ils continuent de regarder le ciel. Et puis, il y a deux hommes en blanc. C'est probablement des anges, mais voilà, le texte ne le dit pas, sauf erreur. Et il pose une question, mais combien de temps vous allez rester là à regarder le ciel ? Et il donne un élément de fin des temps sur le retour du Seigneur. Voilà, et on peut considérer que la parole des anges est tout à fait fiable sur ce retour du Seigneur. Ensuite, troisième partie, les disciples ou les apôtres retournent à Jérusalem et ils font directement, ils obéissent sur ce que Jésus leur a dit, restez là et attendez ce que le Père a promis. Ça va venir. Et ils parlent du Saint-Esprit. Ils sont dans la prière, ils sont dans la louange, voilà, ils cherchent le Seigneur, ils attendent le bon moment. Si je me souviens bien, entre l'ascension et la Pentecôte, il y a 10 jours. Voilà. Et entre Pâques et Pentecôte, il y en a 50. Donc Jésus est resté 40 jours, 1 mois et 10 jours, quoi, en gros, en tant que ressuscité avec ses disciples. Il leur a fait un peu des farces, parce qu'il les attendait en Galilée, puis après, voilà, passer à travers les murs et tout ça. Il y a eu un petit peu de choses drôles, là, de sa part. Donc voilà. Et puis, dans cette vie de prière, c'est là qu'on structure un peu, parce que ça se forme en Église. Il y a des gens qui se rajoutent. On voit qu'à la Pentecôte, ils ne sont plus que les 12 ou 15 avec les femmes, mais ils sont 120. Voilà, il y a 120 vraiment, on va dire, chrétiens convaincus qui sont là, qui se rassemblent. On ne les appelle pas encore chrétiens. Chapitre 2, c'est la visitation de la Pentecôte. Et la Pentecôte, c'est une fête juive qui, dans l'Ancien Testament, s'appelle Moisson ou la fête des semaines. Donc Dieu choisit une fête biblique qui est là, au calendrier, où il fait descendre son Saint-Esprit. Il fait exprès, il y a beaucoup de monde à Jérusalem. Allez, on met la compresse, c'est ce jour-là de la descente du Saint-Esprit. Il y a du vent qui est fort, il y a un bruit que ça produit, et puis il y a des langues, il y a des flammes quoi, de feu qui se séparent et qui vont sur les 120 qui sont là. Donc imaginez que vous faites partie des 120, et puis il y a une flamme qui vient sur votre tête, ça ne consume pas vos cheveux, ça ne brûle pas, mais vous êtes remplis du Saint-Esprit, et ça déborde et ça chante dans une langue que vous n'avez pas apprise. Vous louez Dieu, vous adorez Dieu. Et là, il y a un phénomène extraordinaire et fabuleux. Voilà, fête des moissons. Donc beaucoup de gens, de pèlerins sont là à Jérusalem et ils entendent le bruit. Et ils voient que le Saint-Esprit est descendu, mais ils ne savent pas ce que ça veut dire. Ils ne savent pas ce que c'est. C'est un phénomène étrange. Et comme j'ai dit, c'est au matin, 9h du matin, que ça se passe. Pierre, conduit par l'Esprit Saint et aussi les apôtres après, Pierre fait un discours. À ce moment-là, il explique assez courtement ce qui se passe. Ok, vous êtes déboussolé, vous vous moquez un peu. Je vous explique ce qui se passe. C'était annoncé il y a longtemps dans le livre du prophète Joël. Mais vous, et puis il centre son discours sur Jésus. Il n'y a pas longtemps, vous avez crucifié Jésus. Donc il les accuse carrément. Il a dit, mais c'est vous qui avez crucifié Jésus, c'était un innocent. Mais finalement, c'était le plan de Dieu. Il rappelle un petit peu la mort de Jésus-Christ, son exaltation maintenant. Et tous les pèlerins qui sont là, ils savent que quand le Messie va venir, il va être glorifié et il sera assis à la droite de Dieu. Et c'est pour ça qu'il leur dit, quoi. Ils sont prêts, ils sont prêts. Et le fait que pour un juif de savoir que la parole de Dieu, ce jour-là, elle se confirme au travers de Jésus, c'est quelque chose de magnifique. Et la Bible dit, ils ont le cœur vivement touché. La promesse du Messie se réalise. Cette promesse depuis des siècles qu'on attendait, enfin elle se réalise. C'est bon, c'est le temps de Dieu. Dieu ne nous a pas oubliés. Alors tout facilement, Pierre y fait un appel à la repentance. Convertissez-vous, changez de vie, mettez votre foi en Dieu, soyez baptisés d'eau et vous recevrez comme nous le Saint-Esprit. Parce qu'il n'est pas que pour 120, mais il est aussi pour vous et même pour vos enfants et même pour les générations d'après. Je crois que c'est acte 2, 38. Voilà, changez d'attitude, convertissez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. La promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin. Donc même là, il prophétise hein, au-delà d'Israël. En aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Waouh, quels événements. On aurait voulu hein, être à cette Pentecôte-là quand même, hein, il y a 2000 ans. C'est quelque chose, quoi. Et puis après, la dernière partie, versets 42-47, c'est comment la vie de cette jeune église, l'église naissante, comme ça, comment elle s'organise, voilà, comment elle vit. On a la caméra qui vient de l'intérieur cette fois. On n'est plus seulement à l'extérieur, mais on est à l'intérieur. Et puis, comment les chrétiens vivent, comment ça se passe, comment ils prient, voilà, comment ils sont unis dans l'amour, comment le Seigneur agit et pour cette Église. Voilà, je ne sais pas exactement combien de mois ou d'années couvrent ces deux chapitres, mais voilà, c'est pas, y a l'aspect rapide au début, mais après, il y a donc la Pentecôte, et puis après l'organisation de l'Église, peut-être c'est une année, deux ans, je ne sais pas, ou plus. À voir. Je reviens un petit peu, parce que c'est quand même un peu étude biblique ce qu'on fait dans ces dimanches sur les actes, sur cette doctrine de l'exaltation de Jésus-Christ. Si le mot vous gêne, mettez le mot enseignement. L'exaltation de Jésus-Christ montre ses fonctions actuelles, ses attributions après son ascension. Après son ascension, ce qu'il avait aussi déjà en partie avant. Hébreux 2,9. Et regardez à Jésus pendant que je vous parle. Écoutez ces versets. Nous le voyons couronné de gloire et d'honneur. Jésus n'a plus les pieds poussiéreux des chemins d'Israël. Il n'est pas dans une simple tunique. Il n'est pas en train de dormir. Mais il est en ce moment couronné de gloire et d'honneur. Tous les honneurs, toute la gloire lui est donné actuellement. Une partie du ciel est déjà remplie. Les saints de l'Ancien Testament, les chrétiens qui sont morts en Christ jusqu'à présent, le glorifient, le célèbrent. Et la gloire lui est donnée les dimanches à Aunay à 17h par chacun. Je l'espère. Oui. Il est couronné de gloire et d'honneur. Ce Jésus glorieux, Jean l'a vu alors qu'il était à Patmos, prisonnier, à cause d'une persécution. Il le décrit dans Apocalypse 1 à 2. Ça n'a quasi rien à voir avec le Jésus terrestre. C'est le même, mais ça n'a quasi rien à voir. Jésus est parfaitement homme, parfaitement Dieu. Mystère de la Trinité. Jean l'a vu, il le décrit. Étienne le voit alors qu'il reçoit plein de cailloux dans la figure. Le ciel s'ouvre et il voit le Jésus couronné de gloire et d'honneur. Amen. Jésus a reçu un nom supérieur à tous les êtres humains, tous les anges et tous les êtres à venir encore. Il a un nom bien supérieur à tous les patriarches de l'Ancien Testament. Il est supérieur à David, à Moïse, à Élie, etc. Il a un nom supérieur. Et devant ce nom, tout genou fléchira. Tout genou fléchira. Ce nom, nous dit l'Apocalypse 3:12, c'est un nom nouveau. Son nom est la parole de Dieu dans l'évangile de Jean. Il a un nom nouveau écrit sur sa cuisse, tatoué. Il a un nom nouveau. Ce nom, bien sûr, c'est le même, mais en même temps, c'est un nom nouveau. Mystère, là encore. Il est intronisé et placé à la droite de Dieu. Et cette expression, elle peut être littérale, apprendre à littéral, assis à la droite de Dieu, mais aussi comme la position la plus haute. Jésus a ainsi reçu toute autorité dans les cieux et sur la terre. Donc, pourquoi chercher ailleurs, hein ? Pourquoi chercher ailleurs ? Il a la position la plus haute, la plus élevée en gloire et en puissance. Daniel 7,14, Daniel le prophète, a vu ces choses en avance. Je voyais quelqu'un semblable à un fils d'homme, il ne sait pas qui c'est. On le fait approcher quand il est intronisé et on le fait approcher vers l'ancien des jours, vers l'éternel, et on lui donne le couronnement, la domination sur toutes les nations, etc. Et pourtant, c'est le même Jésus qu'on aime. Hein, c'est la même personne qui est tout près de nous, en qui on peut demeurer. Il est couronné de gloire et d'honneur. Moi, quand j'ai vu ça, je me dis « Waouh, Seigneur, t'es merveilleux. Je tombe à genoux, je t'adore, je me prosterne devant toi. » Que fait-il en ce moment, Jésus ? Il ne reçoit pas seulement les louanges. Hein. Il est nommé à la tête de l'Église universelle. C'est lui, hein, le chef de l'Église. Malheur à quiconque prend sa place. Hein. Il n'y a personne à sa place. Et il n'y a pas d'homme habillé en blanc qui prend sa place. Hein. Attention, là aussi. Éphésiens 1,22, il est le chef de l'Église, chef de l'Église. Il est aussi, Hébreux 4,14, je vais assez vite, le souverain sacrificateur éternel établi sur la maison de Dieu. Autrement dit, il y a un sacrifice qui est valable, un unique, un seul qui est valable pour le pardon de nos péchés et la vie éternelle. C'est Jésus qui est non seulement le sacrificateur, mais comme j'ai dit tout à l'heure, il est lui-même la victime expiatoire. Il a ses deux rôles. Ou alors l'agneau de Dieu, comme le nomme l'apôtre Jean. Toutes les puissances spirituelles, toutes, tous les démons, toutes les autorités spirituelles négatives et positives, il reçoit une pleine soumission de ses autorités. Une pleine soumission. Je pensais à une chose, vous savez peut-être que ça vous est arrivé, vous allez à un endroit et puis il y a une vedette qui est là. On disait autrefois vedette, maintenant on dit star, superstar, voilà. Quelqu'un très connu, etc., qui joue là-dessus. Eh bien, en général, tout l'entourage qui est autour s'arrête. Il n'y a personne qui est indifférent. Il y a comme une sorte de, voilà, une prestance ou quelque chose qui est là, une présence, quoi, qui est particulière, à tort ou à raison. Quand je voyais au stade, quand il y avait des grands joueurs qui arrivaient, c'était comme ça, quoi. On voyait tel joueur qui arrive, ça en impose, alors que lui, il est normal, mais ça en impose, c'est comme ça. Eh bien, imaginez cela, mais de manière décuplée, à la taille de l'univers. Lorsque Jésus, ou le nom de Jésus est prononcé par ta bouche, ou lorsque Jésus bouge, est là, l'univers entier fait silence, et doit faire silence. Alors des fois, les démons, ils jouent avec l'incrédulité ou le doute des croyants qui ne pensent pas que le nom de Jésus ou qui ignorent ou oublient que le nom de Jésus est très efficace. Mais lorsque tu pries au nom de Jésus, tu pries au nom de ce grand souverain sacrificateur éternel qui est établi sur la maison de Dieu. Et puis juste pour finir, pour être plus proche un peu de nous, de cette partie-là, je n'ai pas fini mon message, eh bien, il est le roi d'un royaume d'amour. Il n'y a pas de plus grand amour dans ce royaume-là qui existe dans ce monde, c'est le royaume d'amour. Et lorsqu'on le loue, lorsqu'on le bénit, il aime libérer sa présence. Et l'autre jour, j'étais avec deux autres personnes qui vivent des épreuves, une dans sa santé très fortement, un problème de cœur, et une autre, quelqu'un qui vit des problèmes, situations très difficiles dans son couple. Eh bien, les trois, on s'est mis d'accord, et je ne dis pas que j'ai des problèmes, là, j'étais le moins porteur de problèmes qu'eux, mais on s'est mis dans la présence de Dieu, quoi. Et cette présence, elle était là, tellement tangible, même les problèmes, aussi lourds soient-ils, aussi difficiles à vivre soient-ils, sa présence, elle est là, son royaume d'amour, il est là. Et c'est tellement génial, ça, c'est notre trésor. Puis à la fin, j'ai dit, vous vous rendez compte, les non-chrétiens, ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas ce soutien de la présence de Dieu. Alors, il ne faut pas se priver de cette présence de Dieu. Elle est là, chez toi, elle est là, même au travail. Puis même aller aux toilettes, louer le Seigneur, à la pause des cours, etc. La présence de Dieu ne te quitte pas. Et ça, c'est notre trésor. Alors voilà ce que je voulais dire sur l'exaltation de Christ. C'est quand même du steak hein, là, que je vous donne ce soir. Mais il faut le savoir. Et notre Seigneur, il est immense, infini, extraordinaire. Et puis en plus, il est présent partout par son esprit. Alors ça, ce qu'il n'était pas quand il était à Jérusalem, mais là maintenant, il a donné son esprit et il est présent partout. Je vous donne maintenant une dernière pensée par rapport à ce livre des Actes. Donc Pierre prêche sur l'exaltation de Jésus. Voilà, le Saint-Esprit descend. Le Saint-Esprit atteste dans les cœurs que ce que Pierre dit est juste. Les gens sont prêts, ils accueillent ça, ils se convertissent sur le champ et la Bible nous montre qu'il y a 3000 hommes se sont fait baptiser ce jour-là. Je compte si on fait 3000 divisé par 120 à peu près. Ça fait 25 personnes, si je ne me trompe pas. Donc chaque disciple de l'église là, des 120 baptise au moins 25 personnes. Peut-être Pierre en a fait plus, peut-être, voilà. Et il fallait que ça aille quand même. Hein. Gros boulot. Quand le Saint-Esprit agit, il faut être prêt à donner son temps, ses passe-temps et tout ce qu'il faut pour le glorifier. Il y a une chose qui m'a frappé et que je vous laisse dans ce texte de acte 1 et de acte 2. C'est Pierre, à chaque fois qu'il prend la parole, c'est la parole qui parle à travers lui. Et je laisse cette interpellation. Pour choisir Matthias, enfin le remplaçant de Judas, plutôt, il cite les psaumes. Qu'un autre prenne sa place. Il cite un psaume qui est peut-être même hors contexte si on regarde les psaumes, mais il est imprégné de l'écriture. Il cite et c'est la parole qui le conduit, ou plutôt le Saint-Esprit qui prend la parole en lui et qui le conduit. Et dans sa prédication après, aux milliers de personnes qui sont là, même chose. Il explique ce qui se passe par le prophète Joël, il parle de Jésus par différents autres passages, des psaumes, etc., l'exaltation de Christ, et il prend la parole et il parle la parole. Il se laisse conduire par elle. Et en fait, tout ça pour vous dire, et c'est mon point final, laissons-nous conduire comme Pierre par la parole. On peut se dire, ouais, je me laisse conduire par le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit, il va toujours prendre la parole pour attester les choses, pour guider les choses. C'est intéressant ça, hein ? C'est intéressant. Par exemple, si on prend un domaine de nos vies, un domaine assez simple comme ça, les finances. Je prends l'exemple des finances. Dans les Écritures, il y a des lignes de conduite comme ça par rapport aux finances, comment on devait gérer. Alors vous pouvez dire, oui, mais je me laisse à chaque fois conduire par le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, il va nous ramener au principe de la parole de Dieu, des principes du royaume par rapport aux finances. La foi, on sème quand on donne les finances. Les prémices appartiennent à l'Éternel. On le donne avec joie. Donc il nous ramène à ces principes-là et il les prend alors qu'on connaît cette parole, et il nous guide par cette parole, et il atteste ces choses-là, et c'est ce qui fait que ça a du poids dans nos vies, c'est du solide, c'est du costaud. Donc le Saint-Esprit ne sera jamais en opposition, bien sûr, avec les Écritures, et c'est pour ça que Pierre peut être utilisé par Dieu, parce qu'il est imprégné cette parole. Alors bien sûr, il était dès petit, c'était un garçon, hein, à la yeshiva, à l'école du dimanche et à l'étude des Écritures, il connaissait les prophètes, la loi, etc. Mais cette parole-là, je pense que c'est assez exemplaire. Jacques fera la même chose aussi dans Acte 15. Eh bien, il se laisse guider par cette parole. Tout ça pour vous dire, connaissons la parole, méditons les Écritures, soulignons-la dans les Bibles, dans nos Bibles. J'ai adopté depuis quelques années une méthode, pas dans le livre écrit, mais dans mon ordinateur, où je peux surligner les versets en fonction des catégories. Toutes les promesses sur lesquelles je tombe, c'est vert. Donc chaque fois que je vois du vert, c'est une promesse. Et il y en a plein. Toutes les paroles qui me parlent directement, qui me remettent en question, je souligne en orange. Faites ne faites pas comme moi, il n'y a pas besoin. Tout ce qui concerne le Père, Dieu le Père, c'est... Dieu le Père, c'est en orange plus foncé. Jésus, c'est en mauve. Le Saint-Esprit, c'est jaune fluo. Le salut, c'est rouge, etc., etc. Donc voilà, j'ai fait des thèmes comme ça, des catégories. Alors, si vous voulez prendre ce principe, je pense que c'est un bon principe. Commencez par la lecture d'un évangile. Marc est le plus court, Luc, c'est le plus long. Et puis, vous notez, par exemple, tout ce que vous trouvez sur Jésus, ou les miracles, ou la délivrance, etc. Et puis, le must, c'est d'apprendre par cœur, comme Pierre. Parce que Pierre, il n'avait pas sous les yeux, quand il a prêché, la parole. C'était super cher à l'époque d'avoir des rouleaux. Il n'y avait que dans les synagogues ou quelques riches qui avaient des rouleaux qui étaient écrits des deux côtés, où il y avait quelques livres, ils n'avaient pas tout d'un coup. Mais donc, ils ont appris par cœur, et c'était dans le cœur, justement. Et le Saint-Esprit a pu prendre en charge cela. Est-ce que nous avons soif de cette Bible écrite ? Je crois qu'il faut encore travailler là-dessus pour se laisser conduire par la parole, et le Saint-Esprit prendra la parole en nous pour nous conduire dans les œuvres du Seigneur. Notre Dieu, merci encore pour ta parole. Merci pour les actes. Comment ça a débuté, cette église, jeune église, qui s'est structurée, mais avant ça, qui a accueilli la vie de l'Esprit. Merci parce que ils étaient prêts, ils étaient mûrs, les foules aussi étaient mûres pour saisir la nouvelle alliance que tu avais pour eux. Seigneur, ces textes nous sont relatés. Tu as veillé sur cette parole pour que nous l'ayons encore aujourd'hui. Et Seigneur, prépare-nous pour ta Pentecôte que tu vas déverser. Les prophéties, Seigneur, nous le disent, nous le rappellent. Des choses sont à venir. Une visitation nouvelle est là pour l'Église, pour les croyants. Prépare-nous, imprègne-nous, sature-nous de ta parole et de ton esprit. Vivifie cette parole, Seigneur, si nous sommes découragés de la lire, si elle ne nous attire plus, si nous n'y trouvons pas, Seigneur, de paix en la lisant. Ravive ces choses-là. Attire-nous à cette parole inspirée qui est utile pour enseigner, corriger, reprendre, éduquer dans la justice et pour nous former. Grave en nos cœurs, alors que nous lisons ta parole, ces versets, ces promesses si précieuses. Père Céleste, je prie cela au nom de Jésus.